Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
C'est l'émission En sa présence, une œuvre du Centre biblique sous la présentation de votre serviteur indigne, Danny Wetchai. Que le Seigneur répande sur vous les bénédictions de sa grâce infiniment variée. Caïn sortit de la présence de l'Éternel après avoir tué son frère Abel. Du coup, il devint tremblant et vagabond, peureux et errant. Mais à partir d'Enoch, on commença à invoquer le nom de l'Éternel pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Ce Dieu, l'Éternel, Jéhovah, Yahvé, le Dieu d'Israël, est devenu pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ notre Dieu et notre Père. Tout celui qui a un jour ou l'autre invoqué dans sa vie le nom de Jésus-Christ comme son Seigneur personnel est sauvé pour l'éternité. Car il est écrit dans Romains au chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est devenu un enfant des dieux. » Sans renier un seul des attributs ou des titres des dieux, il l'appelle Père, selon l'esprit d'adoption qu'il a reçu de lui. De même, tous les enfants des dieux, en tant que famille, ont reçu le même esprit d'adoption et ont le droit de s'adresser à Dieu en tant que leur père. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Alors, maintenant, comment font les enfants des dieux pour pouvoir s'approcher des dieux? Comment s'adressent-ils à Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit dans Jean au chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puisque c'est lui le chemin et que nul ne peut venir au Père en dehors de lui, eh bien, il nous a enseigné comment prier. Nous allons alors lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. « Voici donc comment vous devez prier. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Nous allons ici non pas faire une étude systématique de ce qu'on appelle la prière dominicale ou le Notre Père, car alors il y aurait trop de choses à voir pour si peu de temps. Parlons essentiellement de la prière et du pardon. C'est donc le sujet d'aujourd'hui. La prière et le pardon. Le fait que le Seigneur Jésus ait donné une petite conclusion sur la prière immédiatement après son enseignement à cet égard, conclusion qu'on trouve au verset 14 et 15, montre toute l'importance que revêt le pardon des péchés. Le Seigneur en fait même la condition essentielle pour l'exaucement de la prière. Cette conclusion doit être, à mon avis, comme l'introduction à la prière. C'est le préalable à toute supplication devant le trône de grâce où est assis notre Père, si nous considérons la prière sous un angle purement relationnel. La prière n'est pas un exercice spirituel creux et sans objet. Quand on prie, on entre en relation avec Dieu. On exerce sa communion avec son Père céleste. Ce Père est saint, c'est-à-dire séparé de tout péché. Et quand nous disons « Que ton règne vienne », la loi royale, c'est l'amour.
Jacques dit, « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » C'est dans Jacques au chapitre 2, au verset 8. Il s'agit bel et bien de la loi royale. Le Dieu Saint, qui est notre Père et notre Roi, a fondé son royaume sur la loi de l'amour du prochain. Il n'y a pas de règne de Dieu en celui qui a de la haine vis-à-vis de son prochain. La sainteté et le règne de Dieu que nous évoquons dans la prière du Notre Père vont de pair avec l'amour du prochain. Veux-tu être exaucé dans ta prière? Quel est l'état de ta relation avec telle ou telle autre personne? Tu appelles Dieu Père. Alors, quel est l'état de relation que tu as avec les autres enfants des dieux, les frères et sœurs en Christ, puisque nous sommes tous la famille des dieux? Es-tu en conflit ou en colère ou dans l'animosité à l'égard de l'un d'entre eux, à l'égard de l'une d'entre celle de la famille de la foi? Eh bien, les versets 12, 14 et 15 doivent t'interpeller. Ces versets disent ceci, je les répète. Verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dans les textes que nous sommes en train de considérer, deux choses seulement sont répétées deux fois. C'est le règne et le pardon. Que ton règne vienne, au verset 10, puis c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Cela, on le voit au verset 13. Le pardon, on le voit au verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Ensuite, au verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes, dit le Seigneur. Puis au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes. Nous avons vu la relation entre le règne et l'amour qui pardonne, en tant que principe de base qui régule la vie dans le royaume des dieux. Car l'amour pardonne tout et supporte tout, selon ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 13 au verset 7. C'est une espèce d'hymne que l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, entonne pour vanter ce qu'est l'amour. Le pardon est la seule chose que nous sommes appelés à faire dans tout ce qui est dit dans le Notre Père. Tout le reste, c'est Dieu qui le fait. Cette seule chose, il faut l'avouer, est très, très difficile, humainement parlant. Quelles sont les raisons que les chrétiens avancent pour ne pas pardonner directement ou immédiatement? Je souligne les adverbes « directement » et « immédiatement ». Certains disent « je veux bien lui pardonner, mais il faut premièrement qu'il reconnaisse le mal qu'il m'a fait. » Ce n'est pas une raison entièrement biblique, et je souligne bien l'adverbe « entièrement ». Oui, Dieu pardonne quand l'homme se repent et confesse son péché devant lui. Et quand ses péchés sont en relation avec les hommes qu'on a offensés, il est dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est Jacques qui le dit dans son épître au chapitre 5, au verset 16. Mais que fais-tu si la personne qui t'a offensé ne reconnaît pas le mal en question? Que fais-tu alors? Tu seras bloqué dans ta rancune et dans ta colère aussi longtemps que durera l'impénitence de ton agresseur. Je vais lire trois ou quatre textes bibliques qui montrent que la bonne attitude est de s'en remettre à Dieu et de pardonner. D'abord, dans 2 Chroniques au chapitre 24, du verset 20 jusqu'au verset 22. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Yehoiada, il s'étend devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous n'aurez pas de succès, car vous avez abandonné l'Éternel. Il vous abandonnera. » Verset 21. Alors, ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas n'avait pas gardé le souvenir de la bienveillance avec laquelle Yehoiada, père de Zacharie, avait agi à son égard. il tua son fils. Zacharie dit en mourant, « Écoutez bien, que l'Éternel voit et qu'il demande des comptes. Que l'Éternel voit et qu'il demande des comptes. » Nous sommes, bien entendu, dans la logique de l'Ancien Testament, la logique de la loi. Mais il faut bien retenir ces paroles. L'esprit qui anime Zacharie, comme il est dit dans Romains 12, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Il s'en remet au Seigneur, à la justice divine. Ensuite, quand on lit dans Actes chapitre 7, au verset 5 en 9, il s'agit ici de la lapidation d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Il est dit ceci, « Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Je m'en vais lire le troisième texte qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est dans 2 Timothée, au chapitre 4. D'abord, on peut lire au verset 14. « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Paul encore, par rapport à cet homme méchant, ce forgeron Alexandre, il peut dire « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » C'est tout. Cette parole suffit pour nous montrer que l'apôtre Paul s'en remettait à la justice de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le juste juge. Mais c'est pas tout. On va lire encore ce que l'apôtre Paul prononce au sujet d'autres personnes, au verset 16 du même chapitre, c'est-à-dire 2 Timothée chapitre 4, maintenant c'est le verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Alors, ça c'est une belle parole d'un homme qui a un cœur large. Paul avait travaillé auprès de frères et sœurs. Il s'est dévoué pour leur cause. Mais voilà que quand il fut arrêté, il devait comparaître devant le tribunal, mais personne n'est là. Assisté. Tous l'ont abandonné. Il aurait pu avoir de l'amertume. Il aurait pu interpréter cette attitude de frères et sœurs dans la foi comme de l'ingratitude, comme de la méchanceté. Il aurait pu se sentir, mais alors profondément offensé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'il leur en soit pas tenu compte. Et nous pouvons encore voir dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Luc, nous pouvons voir l'exemple du divin modèle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il fut crucifié sur la croix. Qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 34? Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'exemple du divin modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les hommes pour lesquels le Seigneur mourut à la croix avaient reconnu alors leur péché? Pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont fait hostile au même Sauveur. Il y a pas mal d'incrédules, il y a pas mal d'indifférents dans le monde. Mais le Seigneur mourait pour eux et intercédait en disant à son Père, « Pardonne-leur ». Il est évident que Dieu apprécie que nous puissions pardonner et que nous nous en remettions à sa justice divine. Pour autant, la responsabilité de personnes auxquelles nous pardonnons n'est pas moins engagée. Chaque personne qui a offensé l'autre devra se repentir, confesser son péché devant Dieu. Donc, je crois que on n'aura toujours pas le temps de rencontrer des personnes qui nous ont offensés. On est dans cette ville où il s'est commis beaucoup de meurtres, beaucoup de viols, beaucoup d'agressions, beaucoup d'actes de méchanceté. Allez-vous rester éternellement avec ces rancœurs? Puisque il est de ces personnes que vous ne rencontrerez jamais, vous n'aurez plus l'occasion de les voir. Vous avez votre véhicule, vous roulez, et puis, quelque part, tout d'un coup, quelqu'un surgit et méchamment, alors qu'il aurait pu vous éviter, il vous percute. Et de cet accident, vous ressortez avec une jambe amputée. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque après ces événements, eh bien, celui qui vous a causé du tort s'est enfui. Non, le Seigneur est mort à la croix pour nous rendre libres, libres du péché, pour libérer nos cœurs de mauvais sentiments. Voilà, le Seigneur nous invite à pardonner. Une autre raison que les personnes qui tardent à pardonner évoquent, c'est que si je pardonne à la personne, eh bien, je risque d'être l'objet d'une exploitation. Et il y en a qui disent, mais il faut qu'il me promette qu'il ne répétera plus la même chose. Il faut qu'il me le promette tout de suite. Ce n'est pas une raison biblique. Le Seigneur n'a jamais dit que pour pardonner à quelqu'un, il faut qu'on ait des garanties que cette personne ne reviendra plus jamais à la même faute. Quand on lit Matthieu 18, alors Pierre a posé une question très pertinente au verset 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » 70 fois, 7 fois. Est-ce que vous imaginez une situation où, en un seul jour, une personne viendrait vous offenser autant de fois ? Non, c'est pas possible. Mais les 70 fois fois 7 fois montrent tout simplement que le pardon est illimité. Illimité. On ne peut pas limiter le pardon. On ne peut pas dire, bon, je lui ai pardonné la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Ce n'est plus possible de lui pardonner encore. Le pardon est une nécessité parce que s'il n'est pas octroyé, je suis serviteur des dieux, je ne saurais pas travailler. Je ne saurais pas travailler parce que si je sais, au moment où je sers le Seigneur, que quelqu'un m'a offensé et que j'ai de l'amertume, si je sais que j'ai quelque chose contre quelqu'un qui m'a offensé, dans les évangiles, le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. La meilleure attitude qu'il faut avoir en ce moment-là, c'est quoi? Si nous lisons dans Marc au chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Si vous êtes en prière, je prends cet exemple de la prière dont nous parle le Seigneur dans Matthieu 6, puisque dans beaucoup d'églises, c'est une prière qui est récitée par l'ensemble de l'église. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là devant l'autel, vous êtes là dans le temple des dieux. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais arrêtez votre prière, arrêtez votre service. Peut-être s'agit-il d'une offrande, mais vous savez que quelqu'un vous a offensé et que vous avez de l'amertume. Arrêtez, s'il vous plaît, votre travail. Arrêtez l'offrande. Arrêtez la prédication. Arrêtez la prière. Pardonnez la personne. Pardonnez à cette personne parce que sans cela, votre travail est vain. Je peux aussi donner un autre exemple dans un couple. Il y a des couples qui vivent en conflit et dans ce contexte-là, Dieu ne peut pas écouter vos prières puisque l'un des conjoints a de l'amertume envers l'autre. L'apôtre Pierre, parlant de la vie de couple, au chapitre 3, exhortait les hommes en disant ceci au verset 7. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honore-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je m'adresse ici aux couples qui sont en conflit. Et surtout aux hommes, parce que le destinataire numéro 1 de ce texte, c'est les hommes. Les hommes qui, en raison de la faiblesse de leurs épouses, en abusent, montrent de la violence. Eh bien, l'apôtre Pierre dit ici qu'il faut faire très attention. Puisque si l'homme brime sa femme, la maltraite, qu'est-ce qui va se passer? La femme va loger des rancœurs à l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aviez l'habitude de prier ensemble. Elle va dire, c'est terminé, je ne peux pas prier avec vous. Je ne peux pas vous accompagner à l'église. Je ne peux pas lire la Bible avec vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors qu'on est un couple, alors qu'on a été civilement marié, coutumièrement, on a été marié religieusement. Mais là, on peut dire qu'on en arrive à une espèce de célibat spirituel. Vous êtes un célibataire spirituel. Pourquoi? Parce que l'un de vous, dans le couple, garde rancune. Je me souviens d'une situation très difficile que j'ai vécue en Hollande. C'était pas moi, mais plutôt quelqu'un d'autre. C'était un général qui, lui, était parti avec un petit enfant, le seul qu'ils avaient. Il l'a mis dans la voiture pour l'amener à la crèche. Et après, lui, il est allé au travail. Après le travail, après le service, il retourne à la crèche pour chercher le petit enfant. Malheureusement, il l'a pas trouvé. Il a mobilisé tout le personnel qui travaillait à la crèche. Ils n'ont pas pu retrouver l'enfant. La police est intervenue. Et finalement, l'enfant n'était pas trouvé. Alors, ils sont revenus dans sa voiture. Et en ouvrant celle-ci, on a découvert l'enfant qui était dans la voiture parce que son père l'a oublié. Il pensait qu'il avait amené l'enfant à la crèche, mais hélas, il l'avait oublié dans la voiture. Et par conséquent, l'enfant était mort d'étouffement. Mais pauvre femme, qui n'avait que 7 enfants, obtenus difficilement, mais par la grâce de Dieu. Pauvre femme, comment allait-elle se comporter vis-à-vis de cet homme? Il fallait pardonner. Si elle ne pardonnait pas, les prières étaient bloquées. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Quand nous prions, frères et sœurs, rappelons-nous que c'est une exigence pour que nos prières soient exaucées. Et si maintenant, l'un ou l'autre qui me suit sait que il loge de la rancune dans son cœur, eh bien que le Seigneur lui donne la grâce de pardonner. Mais le Seigneur accorde toujours une grâce excellente à ceux qui la lui demandent. Il y a des choses difficiles que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais vous savez, le Seigneur nous demande toujours des choses impossibles pour que quand nous les faisons, nous réalisions que c'est lui qui l'a fait en nous. Alors, si vous êtes dans une telle situation, vous pouvez vous incliner dans la prière pour demander au Seigneur d'abord de vous pardonner parce que vous avez logé de la rancune et aussi vous déciderez de pardonner. Le Seigneur vous pardonnera et vous verrez que vos prières seront exaucées. Avez-vous besoin de contact ou de ce message? Eh bien, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez appeler votre serviteur, Danny Wechai. Que Dieu vous bénisse.
Me voici. tu entends ma voix. Quand dans mon cœur plus rien ne va, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec tes mots vrais, mon espoir est réel. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur, j'ai besoin.